entre les Moussaïs au Kassai oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Eline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la crise de mépris des gens, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à cet échange et partage citoyen sur la fréquence de la paix. Au mois de mars dernier, le Premier ministre congolais s'est entretenu avec le représentant résident de l'UNESCO autour de l'exploitation du pétrole dans le parc national des Virunga, classé au patrimoine mondial. Au centre de leur échange, l'examen des voies, des possibilités d'exploiter le pétrole de cette réserve au profit des populations congolaises habitant dans ce site. Un avis que partagent notamment certains chefs traditionnels du Nord Kivu et qui n'est pas contre, qui n'est pas par contre partagé par la société civile. Cette dernière souhaite qu'il y ait l'exploitation d'autres ressources du parc que le pétrole. Qu'en pensez-vous? Alors, pour participer à ces débats, il faut nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appeler au 081-890-6315. Nous disons merci à Héritier Sidiakala qui assure la mise en onde de ce programme réalisé par Bureau et la Mégie et Julie et César Bongonda, un programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Les dossiers que nous débattons à ces jours fait l'actu de la problématique dans les secteurs de l'environnement. Nous avons fait appel à la société civile, aux représentants de la société civile Force Vive du Nord Kivu, coordination provinciale, avec donc M. Jean-Claude Bambazé. Et puis, ils seront en tout cas accompagné par disons, M. Ernest Sengoma, qui est expert de Virunga et tout, ainsi que Cynthia Wolf, le secrétaire exécutif de cette ONG. Ils sont dans ce studio, les trois membres de la société civile du Nord Kivu. Dans ce studio, donc, je disais, bonjour à Wolf. Bonjour. Voilà, bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Et bonjour Ernest.
Bonjour.
Voilà, nous avons associé également à cette question d'actualité sur l'environnement, Jean-Claude Rouyagué, ministre provincial de hydrocarbures, mines et ressources hydrauliques de Nord Kivu, que nous allons recevoir, donc accueillir dans les 15 dernières minutes de notre émission. Mais d'entrée des jeux, Monsieur Jean-Claude, vous êtes avec nous. Voilà, donc la première question. Le 2 avril 2015, la société civile de Nord Kivu s'est retrouvée pour discuter de cette question. Alors, c'était autour de la préoccupation, autour de la récente déclaration du Premier ministre, disons déclaration rapportée par plusieurs médias, de modifier les limites actuelles du parc national des Virunga à des fins d'exploitation pétrolière. Donc, on peut dire que la société civile de Nord Kivu ne partage pas la position du gouvernement.
Oui, Monsieur Gire, je peux vous dire que d'emblée, donc cette position n'est pas acceptée d'abord par la société civile, tout entière du Nord Kivu, mais également nous qui venons du terrain. Je suis président de la société civile du territoire de Rutshuru, le territoire d'ailleurs où se trouve ce bloc où on va exploiter le pétrole. Et donc, nous, au niveau des lavages, nous n'acceptons pas, nous ne sommes pas d'accord aussi avec cette révision de ces limites encore de ce parc.
Alors, qu'est-ce qui justifie votre présence ici à Kinshasa?
Nous sommes ici à Kinshasa, c'est dans le cadre de la SBL Virunga et tout. C'est juste pour faire un plaidoyer. C'est juste, bien sûr, par rapport à ce comité que nous entendons, et aussi informer l'autorité de la position de la population riveraine qui n'est pas d'accord avec ce que cette démarche-là, que le gouvernement veut entreprendre, mais plutôt aussi qui est d'accord avec la protection de ce parc et aussi la rentabilisation même ou la relance du tourisme dans ce parc. C'est ça, ce qui est dans le but de la population de notre plaidoyer ici à Kinshasa.
Alors, vous avez été reçu tour à tour par le ministre de la décentralisation, c'est Salomon Bayamouéré. Et puis, aujourd'hui, vous venez d'abord d'une audience avec le ministre de l'Environnement. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que là où partout vous êtes passé, disons, votre plaidoyer a réussi un accord, un écho favorable bon, de la part du gouvernement?
Écoutez, en fait, ce qui est, c'est que tout le monde est d'accord avec la protection de ce parc. Bien sûr qu'il y a des enjeux que le gouvernement veut mettre sur place. de vouloir montrer que non, c'est aussi une ressource qu'on doit exploiter. Mais nous nous disons que c'est vrai par rapport à ce que nous avons comme argument, mais ça ne rencontre pas
le sentiment
de la population riveraine. Et donc, avec le ministre Banamouré, il est vraiment franc, il est d'accord, il dit voilà, en tout cas, je crois que si ça ne dépendait que de lui, il faut quand même respecter toutes les limites de 1925 de ce parc. Bien sûr, il avance encore en disant mais il y a d'autres endroits où on exploite les ressources dans les aires protégées. Il a donné l'exemple de la Tanzanie, de la Russie, tout ça. Mais nous, nous avons dit que non, nous ne sommes pas encore à cette étape. L'étape dans, sur laquelle nous nous engageons, c'est l'étape plutôt de rentabiliser les ressources, les recettes à partir du tourisme, en relançant, en protégeant ce parc. Et surtout, ce n'est pas seulement pour les recettes, mais notre vie en dépend. Et écoutez, donc, tout ce qu'il y a dedans, si on détruisait ces forêts, si on détruisait ces eaux, comprenez, il y aura des milliers de gens qui sont sacrifiés à cause de cette exploitation.
Mais pourquoi l'exploitation du pétrole dans le parc des Virunga suscite autant de passions? Ce n'est pas ce que nous avons pu observer ailleurs, notamment dans les Bas-Congo ou dans d'autres provinces, où exactement il y a eu ces genres d'exploitation aussi.
Bon, écoutez, peut-être dans les Bas-Congo, c'était d'abord la première expérience, peut-être. Maintenant, après l'expérience, écoutez, on a toujours dit que l'expérience rend sage. On a exploité au Bas-Congo, mais qu'est-ce qu'il y a comme retombée, J.R. Vous êtes tout près du Bas-Congo, moi je vais d'être très loin. Est-ce que tu peux me dire que non, au Bas-Congo, la vie a changé parce qu'on a exploité le pétrole? Je peux vous dire que là, c'est une réponse négative. Quand vous arrivez sur place, parce qu'on a eu la chance d'y arriver, et donc, c'est la population qui se lamente, la population pleure, et là, elle était beaucoup plus paupérisée d'ailleurs qu'avant. Et donc, nous nous disons, avec cette expérience, pourquoi on veut encore étendre cette paupérisation de la population, même dans le Nord Kivu, même dans le Rutshuru, où d'ailleurs la population est très pauvre à cause de beaucoup de guerres qu'on a eues, et donc, comprenez que
voilà. C'est pas responsable de pouvoir faire ça. Alors, je pense qu'il y a, parmi les membres de la société civile, il y a l'ONG Virunga Yetu qui hausse également le ton. Aujourd'hui, c'est vrai, votre plaidoyer, dans le contenu de votre plaidoyer, il y a l'ONG qui insiste sur l'exploitation d'autres ressources que le pétrole. Donc, comme pour dire, Virunga Yetu n'est pas opposé à la position du gouvernement, mais il propose plutôt d'autres exploitations. Mais alors, comment vous justifiez ça, Wolf?
Oui, en fait, je suis d'abord les auditeurs, donc les membres de la population riveraine du parc national de Virunga.
Moi, je pense qu'on ne devait pas commencer par là. Je crois que si on est en train de souffrir aujourd'hui au Nord Kivu, c'est suite aux différents accords que le gouvernement a signés. Aujourd'hui, la population est en train de payer les tribus. Je crois, de ce que le Premier ministre, son Excellence Matata Ponyo, a dit, je vais commencer par là, changement des limites actuelles du parc national de Virunga, c'est vraiment aberrant. Nous demandons à son Excellence d'abord de retirer ça, parce que dire qu'on peut délimiter le parc national de Virunga, c'est autoriser à Soko d'exploiter le pétrole. Et il y a d'abord la gaz méthane.
Mais Soko a déjà fermé.
Non, Soko.
Il a plié bagage.
Non, nous avons.
Hier, j'ai parlé avec le DG, José Sangois, que je salue d'ailleurs en passant, qui nous a laissé entendre, parce qu'il devait être aussi l'invité. Nous avions voulu vraiment tirer des choses au clair, qui nous a laissé entendre qu'ils ont plié bagage. Et là, sur place, bon, vous venez de là, peut-être que vous avez notre son des cloches. Ils nous ont laissé entendre que, voilà, ils n'exploitent plus.
Non, Soko continue à travailler illégalement. Nous savons tout ce qui se passe avec Soko au Nord Kivu. Donc nous demandons tellement aux uns aux autres que nous ne sommes pas prêts pour l'exploitation du pétrole dans les parcs nationaux de Virunga. Et cette question nécessite un débat avec la population riveraine. Il ne faut pas qu'on consigne des choses, des accords à Kinshasa et qu'on sacrifie la population.
Vous proposez sous forme d'un référendum qu'on aille...
Par exemple,
la population riveraine discute avec les gouvernements sur la question. Oui. Est-ce que vous ne voulez pas que l'erreur qui s'est produite dans les Bas-Congo...
Voilà. Je suis avec moi avec un document où il y a eu une commission de sénateurs qui est partie en octobre faire une évaluation au Bas-Congo. Mm-hmm. Et quels étaient les résultats? Les sénateurs ont constaté qu'après 30 ans qu'on est en train de sauter le pétrole à Mwanda, il y a des problèmes graves qui sont enregistrés au Bas-Congo. Et c'est un exemple qui doit nous attirer aussi au Nord Kivu. Et qu'est-ce que Soko va nous amener du changement? Aujourd'hui, il y a des centres hydroélectriques qui sont en train d'être construits. Il y a des écoles qui sont en train d'être construites dans les parcs nationaux de Virunga pour le fonds que les touristes sont en train de faire entrer. Il y a des centres de santé. Mais est-ce qu'on va nous amener des projets extraordinaires?
Alors, vous,
nous, on ne pense pas.
Autre ressource dont vous parlez là, est-ce qu'il s'agit de gaz méthane Oui, je ne sais pas.
Oui, d'abord, exactement. Commençons d'abord par les gaz méthane, parce que nos voisins, le Rwanda, ils ont commencé. Il y a de la population.
Mais les gaz méthane, ce n'est pas sur le lac Édouard, c'est le lac Kivu.
Oui, prenons par exemple le volcan du Ragongo. Mm-hmm. Prenons la relance du tourisme industriel. Donnons les moyens, que le gouvernement donne des moyens au ministre du tourisme pour faire les relances du tourisme industriel au Nord-Kivu.
Mm-hmm.
Bukangalon, je t'en fais de réussir. Pourquoi on ne peut pas réussir si on peut relancer
Quels sont les dangers aujourd'hui, Ernest Sengla, vous êtes un expert. Les dangers aujourd'hui, parce que tout le monde parle des dégâts environnementaux. Si jamais on exploitait le pétrole dans ces parcs. D'une part, il y a l'UNESCO qui réclame haut et fort que le parc de Virunga est classé, patrimoine mondial. Vous, en tant qu'expert, est-ce qu'il y a effectivement des dégâts si aujourd'hui on l'exploitait?
Bon, je vous remercie d'abord, Gérard, pour l'initiative. C'est-à-dire, il faut que nos populations et que nos autorités politiques comprennent que le parc de Virunga est au cœur du conflit à l'Est. Si vous constatez très bien, en fait, le parc est devenu aujourd'hui le sanctuaire des groupes armés. Donc, vu cette instabilité qu'il y a tout autour du parc, vous savez qu'il y a des initiatives de paix. La paix est en train de recouvrir petit à petit dans cet espace-là. Nous allons encore augmenter le pétrole de malheur. Vous connaissez le concept du pétrole de malheur. Quand vous amenez le 60 du pétrole, ça amène toutes sortes de mafias et de banditisme. Peut-être que l'El Shabab pourrait s'intéresser encore au parc national de Virunga, ça compliquerait encore l'affaire. Et donc, l'exploitation du pétrole dans le parc, tout simplement, même si on utilisait les moyens technologiques les plus avancés, il y a les fuites par exemple. Vous allez utiliser une tuyauterie, il y aura des fuites. Vous allez utiliser, il y a des systèmes d'exploitation avec torcheur, il y aura l'émanation des gaz. Quelle est la conséquence? C'est l'éloignement des animaux. C'est finalement déséquilibrer tout l'écosystème tout autour de la zone environnante. Donc vous savez qu'on ne sait pas, et je ne cesse de le dire toujours à ceux qui viennent à l'attendre, on ne sait pas développer le Nord Kivu, ni ramener la paix dans le Nord Kivu, sans s'occuper véritablement du parc national de Virunga.
081-890-7315 pour votre intervention en direct, et nous vous rappelons que vous pouvez également poster vos commentaires sur notre page Facebook. Nous recevons dans ces studios les membres de la société civile de Nord Kivu et également les membres de Virunga Yetu pour parler de la problématique d'exploitation de pétrole dans les parcs des Virunga.
Parole aux auditeurs.
Docteur Richard, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à tous les éditeurs et surtout beaucoup de fleurs à nos invités.
Voilà, merci, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous pensez, vous, personnellement, par rapport à cette polémique? Le gouvernement tient mordicus ou encore perdu ses signes pour l'exploitation du pétrole dans les sites, dans le parc national des Virunga. L'UNESCO ne parle pas de ces mêmes langages avec le gouvernement parce que ces patrimoines, disons, ces parcs est classé au patrimoine mondial. Il y a la société civile du Nord Kivu avec des sections différentes qui montent au créneau, et notamment ceux qui sont à Rutshuru et dans les parties riveraines de ces parcs, qui s'opposent, catégoriquement, en demandant qu'on puisse d'abord exploiter d'autres ressources que les pétroles qui pourraient être l'objet de pas mal de conflits. Est-ce que vous partagez cet avis, des uns et des autres?
Oui, je partage cet avis à 100%. Pourquoi? C'est parce que l'exploitation du pétrole est parallèle à l'exploitation de gaz au lac Kivu. Et avec le lac Kivu, il n'y aura pas de dégâts. Par contre, dans le parc, vous allez avoir la déforestation, vous allez avoir la destruction de la biodiversité en faune et en flore, et puis il y a aussi les ressources naturelles non ligneuses que la population ramasse pour vivre. Donc toutes les ressources seront détruites. Et qu'est-ce que l'État a fait pour prévenir tout ça? Rien. Absolument rien. Les gens seront jetés en pâture, comme les réfugiés qui partent sans boussole, laissant derrière eux une guerre, alors que le lac Kivu est là avec beaucoup de méthane qui peut exploser d'ici demain. Voilà. Qu'on regarde d'abord là où il y a le danger. Le Rwanda, en face du lac Kivu, est en train d'exploiter le gaz méthane. Et pourquoi pas le Congo? C'est très facile d'éviter à cette communauté une explosion un jour pour ne pas vivre ce que les Camerounais avaient vécu avec le lac Nyos, qui avait asphyxié les gens dans un rayon de plus ou moins 4 à 5 kilomètres autour du lac Nyos. Voilà. Donc, cette population a raison. Vox Populi, Vox Dei, qu'on l'écoute. Pourquoi embrasser beaucoup de dossiers comme ça? lorsque le SAS dit qui trop embrasse, mal les trains.
Voilà, donc, oui, d'accord. Docteur Richard, donc, vous appuyez la position de la société civile qui considère que le parc offre des perspectives de développement durable, considérables, qui sont endogènes, vous venez d'en citer quelques-unes, et plus inclusives et plus stables que ne le serait le pétrole, dont les effets néfastes sont bien connus dans les zones des conflits, comme venait de dire l'expert. Alors, donc, si nous allons encore plus loin, toujours dans la lettre ou dans ce plaidoyer de la société civile, Force Vive du Nord Kivu, coordination provinciale, il est clairement dit que l'exploitation pétrolière ne dure que 20-25 ans, donc ce n'est pas de truc renouvelable. Merci beaucoup, Dr. Richard. Maurice, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jean Lembo.
Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette thématique, Maurice?
Je commence par dire ceci. Après avoir écouté nos invités du jour, je suis même tenté de dire sans objet. Je pense que tout Congolais est conscient de la manière dont les ressources naturelles de notre pays sont gérées et pillées quotidiennement. Je pense que nous avons cette obligation de soutenir en fait cette société civile qui se bat depuis des années et qui fait vraiment un travail vraiment de titan pour cette province du Nord Kivu. Alors, je pense qu'ils ont bien raison, comme je viens de le dire, dans le sens que ces gens ont examiné, analysé la situation de la gestion des ressources naturelles dans d'autres provinces, dans d'autres territoires de notre pays. Ils ont même cité l'exemple, par exemple, du Mwanga, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Mwanga. Nous qui avions eu quand même cette chance de passer par là, et je vous dis, ce qu'ils disent, c'est vraiment ce qui se passe réellement dans cette partie de notre pays. Alors, il faut même prendre, par exemple, les secteurs du bois. Hein, vous pouvez aller dans les Bandundu, dans l'Équateur, même en province orientale, vous allez observer partout où on a exploité les bois. C'est comme il y a eu passage des éléphants. Ils ont ravagé et ils n'ont même pas eu les soucis, les moindres soucis même de les boiser. Vous comprenez? Et pourtant, les richesses dont on parle aujourd'hui, ce sont des richesses périssables. Hein? Donc, chaque grain de diamant, chaque baril de pétrole exploité, donc il n'y a pas de baril qui les remplace. C'est-à-dire, nous devons tenir compte même des générations à venir, des générations futures, raison pour laquelle dans d'autres pays, qui exploitent le diamant, qui exploitent le pétrole, ils ont des comptes des générations futures. Et aujourd'hui, dans notre pays, vous pouvez aller voir les gens partout où ils avaient exploité, comme je disais, ce sont des plus pauvres de ce pays. Pourtant, on ne sait même pas amener des projets de reboisement là où ils avaient exploité, par exemple, les bois. Et c'est de la même manière, là, ils veulent exploiter
le
pétrole aujourd'hui. Vous pensez que c'est pour quelle fin? Ces gens-là, en fait, la société civile a bien belle raison de soutenir, plutôt de soutenir même l'UNESCO. L'UNESCO serait sûr, ce qui ne voudrait pas à ce que l'exploitation du pétrole soit effective dans cette partie de notre pays. Parce qu'on observe ce qui a été. Aujourd'hui, nous voyons le Qatar aujourd'hui. Même le chef de l'État était là-bas. Lui-même, il n'a pas pu se retenir pour dire que ce qui se passe, il y a un contact entre ce qui s'observe,
oui, Maurice,
l'exploitation des
minerais,
oui, des véhicules qui
entrent
chaque jour dans les catamarans,
oui,
et
Maurice.
La vie, les conditions de vie dans lesquelles croupissent
les catamarans.
Oui, Maurice.
Oui. Voilà, alors, parce que vous avez évoqué la position de la société civile, il faut noter que la société civile considère donc ne pas exploiter le pétrole dans le parc national de Virunga ne signifie pas pour autant renoncer au développement de la région. Alors, elle propose, c'est bien au contraire, faire le choix de s'orienter vers un autre modèle de développement, une économie verte basée sur une gestion durable des ressources naturelles et la valorisation des opportunités économiques considérables, c'est celle qu'ils ont dit dans leur plaidoyer. Est-ce que vous comprenez? Là.
Oui, je comprends en fait, parce qu'il y a plusieurs secteurs en fait à développer. Notre pays a regorge des richesses incommensurables. Il n'y a pas seulement les pétroles, il n'y a pas seulement les diamants. Mais ces gens-là, en fait, le régime ici veut exploiter ce qui peut donner plus beaucoup d'argent et dans un temps record.
Donner beaucoup d'argent, mais donner beaucoup d'argent où? Mais au pays, c'est une bonne chose.
Et beaucoup de gens, mais qui sert à quoi, finalement? Vous avez suivi hein, le débat d'hier avec celui qui est dans cette alliance, dans cette mouvance. Hein, et vous avez suivi comment les fonds sont dilapidés quotidiennement et assez ouverts dans le pays.
Merci beaucoup, Maurice, d'avoir appelé de Kinshasa et surtout d'avoir contribué dans cette émission. Nous envolons donc à Mbujimayi, au Kasaï Oriental, avec Maître José. Maître José, bonjour.
Bonjour, Maître Situé.
Vous avez la parole. Quel est votre point de vue?
Oui, merci, JR. Je vous remercie et je remercie tous les auditeurs. Et c'est un très bon sujet, mais nous avons un peu de petites difficultés qu'on va toujours chercher à démontrer là-dessus, monsieur le monsieur JR. Nous disons que nous avons un pays riche, un pays qui a
les ressources naturelles.
On va nous aider à décoller. Mais nous, le regret est au niveau de la gestion des choses. Comment? Vous voyez, même ici au Kasaï, à part les diamants, il y a d'autres minéraux. Est-ce que c'est pour autant que le gouvernement s'y met et avec toute énergie pour chercher à exploiter? Exploiter pour aussi que cette exploitation bénéficie aux fils du terroir. Aux fils du terroir, ça ne se fait pas. On est en train d'assister à des histoires comme telles, on peut exploiter dans des zones où on a beaucoup plus d'intérêt, ou selon qu'il s'agit des dirigeants du pays. Et comme nous le disons, les Katanga aujourd'hui, à tout bénéficier. On a fait tout pour mettre les Katanga dans une très bonne position. Mais les restes des provinces sont-elles dans des bonnes positions comme les Katanga? Non, ce n'est pas le cas. Nous avions, nous Kasaïens d'abord, nous avions le sérieux problème avec l'AMIBA. L'AMIBA qui demande moins d'argent, peu d'argent, que les gouvernements peuvent disposer. Mais récemment, dans les discours de chantage que le président de la République a eu à faire au Katanga, il a dit que l'investissement au Katanga, ce n'est pas en termes de millions, mais c'est en termes de milliards. Mais au moment où en Bougemain, nous avions besoin de 10 millions,
de 10 millions. Merci.
Pour avancer les choses.
Merci beaucoup.
Merci. Et à ce niveau-là que nous disons, nous avions toutes ces choses-là, nous avions des ressources humaines, nous avions des ressources naturelles, nous avions des minéraux, nous avions tout, mais est-ce que la façon de pouvoir exploiter...
Voilà, merci beaucoup José, et là également vous rejoignez comme vos prédécesseurs, ces plaidoyers de la société civile qui parlent de la priorité de notre pays qui devrait avant tout être l'obligation de chercher les meilleures options dans l'exploitation de nos ressources naturelles pour les bénéficier de notre population. Merci beaucoup, José. Et Madame Joséphine, vous êtes à Boston. Bonjour.
Bonjour, Radio Capi. D'emblée, je vais dire ceci. Un jour, j'avais comparé le gouvernement de Mobutu, le gouvernement de Papa Kabila et puis le gouvernement de Joseph Kabila. J'avais dit que Mobutu avait fermé le Congo, le Zaïre, pour donner l'éducation à la population. Et puis, on va voir qu'est-ce qu'on doit, en quoi. Qu'est-ce qu'on à quelle entreprise on doit ouvrir?
Oui, voilà.
Alors, au bout de parti, Papa Kabila est venu. Maintenant, on a Kabila Joseph. Il s'est ouvert au monde. Il s'est ouvert au monde sans pour autant avoir les gens qui doivent, des experts, qui doivent aller, par exemple, dire que non, le pétrole, si on exploite le pétrole au bas d'Aïre, ça va produire tel
nombre de barils.
Le pétrole dans le Virunga, ça va. Il n'y a pas ces études-là. Moi, je vais conseiller ceci. Chapeau à la société civile. Le Congo d'hier,
c'est pas
comparé au Congo d'aujourd'hui. Les Congolais, comme on disait, à les Nisonga aujourd'hui. moi je vais proposer ceci. Aussi vous là-bas, vous savez qu'il y a les fluors qu'on fait avec la dentifrice, la pâte dentifrice. On peut extraire ça. Laissez le parc tranquille. C'est une honte quand les autres pays pleurent pour que vous laissez votre parc tranquille. Et vous-même, vous voulez exploiter ça.
Voilà.
À part ça, il y a un produit qu'on appelle les tenderize. C'est un assaisonnement ici aux États-Unis. On utilise ça partout pour préparer la viande. C'est tenderize. C'est le produit là, ça s'est fait. Il y avait une entreprise au Kivu là-bas. C'est déjà fermé. Et puis, pour m'arrêter, je vais te poser la question. Dis-moi, montre-moi une entreprise qui fonctionne très bien, qui paye très bien ses travailleurs au Congo. Une entreprise de l'État. Montre-moi une entreprise. À part vous, peut-être les radios Okapi et les petites entreprises par ici, par là.
Voilà, je n'imaginais pas que... Je n'imaginais pas que la question m'était adressée. Bon.
Mais occupez-vous de ces entreprises-là.
Merci beaucoup, madame, on va le faire. Je n'imaginais pas que la question pouvait m'être adressée. J'imaginais que ce sont les auditeurs, les invités qui pouvaient répondre. Mais de toute façon, on va faire un débat également. C'est un sujet que vous allez proposer, madame Joséphine, pour voir un peu les SMIG au niveau des entreprises publiques et des entreprises et établissements publics. Aujourd'hui, nous sommes à quel niveau ? Et les entreprises qui sont soumises à ce régime de la convention collective, comment la population est traitée ? Bon, voilà. Bref, on y reviendra peut-être dans un autre débat. Mais aujourd'hui, nous parlons du parc des Virunga. Merci beaucoup, madame Joséphine, d'avoir accepté de participer dans cette émission et de contribuer. 081-890-6315 pour votre intervention directe.
Okapi Retro fait revivre l'étude des années 60, 70 et 80. Rumba, pop, disco, slow, des heures de musique congolaise, africaine, européenne et américaine. Le dimanche soir de 19h à minuit, le lundi et le mardi de 21h à minuit. Avec les mix de DJ Dali.
Nous revenons dans ce studio avec vous, nos invités, Jean-Claude Babanzé, Cynthia Wolf et puis Ernest Senghema. Vous avez suivi en tout cas les auditeurs. On va rapidement les uns et les autres ramasser ce que nous avons dit. On commence par vous, Cynthia Wolf. Vous êtes secrétaire exécutif des Virunga et tout. Vous avez suivi. Quelle est la réaction que vous avez par rapport à...
Je suis parfaitement d'accord avec ce que Dr. Richard Maurice et
Madame Joséphine.
Madame Joséphine et Maître José ont dit. Je suis vraiment de cet avis que la population congolaise de 2011 est différente de celle de 2016. Nous sommes en contact avec le gouvernement congolais et c'est pourquoi nous sommes venus à Kinshasa pour faire un plaidoyer en faveur du patrimoine mondial. Et nous disons que le gouvernement doit respecter ses engagements. C'est depuis 1979 que l'UNESCO reconnaît le parc national de Virunga comme patrimoine mondial. Et le gouvernement reçoit même des fonds pour la protection de ce patrimoine. Je ne vois pas aujourd'hui comment le gouvernement va se contredire pour autoriser l'exploitation du pétrole dans ces parcs et d'où la population riveraine renonce à cette pratique.
Alors, Jean-Claude.
Oui, je vais juste rejoindre ce que dit Monsieur Wolf, mais moi je voudrais ajouter encore un élément. Je sais que quand on est à la tête de l'État, c'est que on est un parent des enfants. Et donc même en dehors de cette convention de l'UNESCO, même si cette convention n'existerait pas, on devrait d'abord voir la vie de la population. C'est ce qui est très important. Et donc, pour le moment, nous pensons que même en dehors du fait qu'on a parlé de la distribution des recettes et de tout ça. Et donc, moi je voudrais dire que, en tout cas, au-delà des recettes, notre vie en dépend. Parce que quand on va polluer ces taux, par exemple, il y a des conséquences en amont, il n'y en a pas. Il y a même des pays, ça va être même des conséquences au niveau de la sous-région. Et pour ceux-là qui ne le savent pas, les eaux du Nil, par exemple, elles ont une partie qui viennent des eaux de la Senouliki. Et la rivière Senouliki contribue à elle seule à 10% dans le Nil blanc. Et les eaux de la rivière Senouliki viennent du lac et doit. Et donc, si on pollue cette eau, il y aura non seulement des contraintes sur le plan local, et même sur le plan sous-régional. Ça, c'est encore un problème. Et donc, moi, en tout cas, je félicite encore les amis qui ont intervenu, qui nous emboîtent les pas, et je comprends que maintenant, ce problème-ci n'est pas seulement le problème du peuple de Moussour ou du Nord Kivu, mais c'est un problème de ce pays, c'est un problème de notre région, et surtout que si on peut capitaliser les ressources naturelles, le parc ailleurs, par exemple, nous avons ici au Congo, nous avons un budget de combien de 8 milliards, parfois un budget, mais qu'on ne réalise pas, mais les pays qui ont évolué dans le tourisme, par exemple, le Kenya en 2010, on a réalisé plus de 3,5 milliards de recettes qu'on a.
Et quel regard a le ministre du Tourisme que vous avez contacté, je crois?
Non, le ministre du Tourisme, on sera avec lui après-demain. Mais
après-demain.
Je m'excuse un peu, Julien. Moi, je voulais plutôt inviter les gouvernements congolais à venir visiter les parcs nationaux de Virunga aujourd'hui. C'est parce qu'ils tentaient de renaître. Est en train de se reconstruire avec la volonté des uns et des autres, de certaines autorités qui sont maintenant affectées, qui ont la volonté de faire ce pas. Il y a des diplomates qui passent là-bas, il y a Kobler qui était là, il y a l'ambassadeur des États-Unis qui est là, au moment où nous vous parlons ici, il est à Rumangabo. Donc, nous invitons aussi le gouvernement de venir voir comment est en train de reconstruire.
Dans quel état se trouve
Le parc. Et il y a 10 ans, il y a 20 ans, ce parc était dans quel état? Aujourd'hui, le parc est
en train de. Des efforts personnels, des efforts de la population
rurale. Ce n'est pas le moment de nous parler des histoires de pétrole.
Voilà, alors, Ernest Senova, vous êtes expert. Quelle est la réaction que vous avez par rapport à ça?
Papa J.R., nous sommes ici devant l'appétit du néolibéralisme suicidaire. C'est-à-dire quoi? Les pouvoirs de la finance mondiale, tous ces gens-là, ces grandes sociétés multinationales qui veulent extraire le pétrole, ils se sont des prédateurs, sans scrupule. C'est un pouvoir spéculateur qui vous suce, après il vous jette. Le vrai débat est de négocier la contrepartie.
Tout à fait.
Car il s'agit de la communauté internationale. Elle est sympathique. Donc elle peut mettre quelque chose sur la table.
Ouais.
Et ouais. Je crois que c'est là où on devait orienter les débats, c'est là où le problème.
Ça, c'est un problème de contrepartie. Alors, il y a le ministre provincial des hydrocarbures, mines et ressources hydrauliques, qui vient de nous rejoindre, monsieur Jean Rougouillet, Rouyangué, qui vient de nous rejoindre. Monsieur le ministre, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, bonjour.
Alors, peut-être une réaction à chaud. Par rapport à ce que vous avez suivi, ce qui est dit par les auditeurs, et aussi nos invités qui représentent aujourd'hui la société civile Force Vive du Nord Kivu, coordination provinciale, voilà, représenté ici par le secrétariat exécutif de Virunga Yetu, ainsi que le président de la société civile de Rutshuru, qui en fait un plaidoyer pour demander à ce qu'on exploite d'autres ressources que le pétrole. Mais quelque part, la question des contreparties aussi se pose, parce qu'il faut que la population se retrouve. Comment vous réagissez?
Tout à fait, vous savez, quand on a une situation, il faut l'aborder avec rationalité, éviter la passion. En ce qui concerne les ressources qui sont dans les parcs, c'est des ressources comme d'autres, il y en a qui sont sur le sol, il y en a qui sont dans les sous-sols. Je pense qu'il est un devoir pour tout gouvernement de pouvoir connaître les richesses qu'il y a sur son sol et dans son sous-sol. Et donc, de ce point de vue-là, lorsqu'il est question de pouvoir faire l'exploration, et non encore l'exploitation, l'exploration dans le parc de Virunga, afin de connaître ce qu'il y a comme réserve, ce n'est pas une mauvaise chose du tout. Et quand on doit passer maintenant à l'exploitation, ça, c'est une autre question.
Alors, mais aujourd'hui, la société civile pense que la priorité de notre pays devrait avant tout être l'obligation de chercher les meilleures options dans l'exploitation de nos ressources naturelles. Et le parc, d'ailleurs, égorge beaucoup de ressources. Est-ce que vous partagez cet avis? Au lieu de nous focaliser tout sur le pétrole.
Tout à fait. Le parc contient beaucoup de ressources, effectivement. Et les hydrocarbures sont parmi les ressources, mais c'est dans les sous-sols. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure là, à connaître qu'il y a effectivement des hydrocarbures dans le parc de Virunga, en connaître la teneur, en connaître les conditions d'exploitation et en évaluer l'avantage qu'on pourrait comparer par rapport aux autres avantages qui regorgent les écosystèmes. À ce niveau-là des études, pourquoi ça doit être un problème? Est-ce qu'on va vous dire qu'au niveau de l'exploitation, responsable de l'exploration,
oui.
On va vous dire qu'il y a destruction du parc, il n'y a pas de destruction du parc.
Voilà. Alors, au moment où le parc
est... Quelle est la mauvaise chose que de savoir ce que le parc regorge dans son sous-sol?
Oui, on sait déjà parce qu'il y a une cartographie, monsieur le ministre, je crois que déjà nous avons, pour extrapoler un tout petit peu, hein, si vous nous permettez, pour que ça ne vous gêne pas, déjà la carte géologique actuelle que nous avons, qui n'est pas encore actualisée, nous savons que, en tout cas, les sites, les différentes ressources naturelles, avec les rapports, la dernière carte élaborée par les Belges, c'est tellement connu. Même le parc, il y a toute une richesse qui est déjà connue. Alors, aujourd'hui, je crois que explorer, c'est encore faire un double travail, parce que le travail était déjà fait par les Belges, et on connaît déjà ce qui se trouve. Il y a même la dame de Bonson qui vient de parler d'autres richesses, que, d'autres ressources que nous ne mettons pas. Alors, pourquoi ne pas directement passer à l'exploitation et faire l'étude des dégâts, par exemple, qui pourraient causer telle exploitation ou telle autre? Je crois que
c'est
le fait de
l'importance de l'étude d'impact environnemental.
Oui.
Et donc, quelqu'un ne peut pas se permettre de faire l'exploitation.
L'exploration.
Il n'a pas encore fait l'étude d'impact environnemental, voire la méthode d'exploitation qu'il utilise, ce qu'il aurait comme dégâts sur le parc, n'est-ce pas?
Oui.
Il y a eu des études qui ont été faites par les Belges, mais lorsque vous êtes une société sérieuse, même quand il y a des études, il faut pouvoir les réexaminer et se rassurer que. Il n'y a pas d'autres éléments éventuels qui auraient été oubliés et en tenir compte. Donc ce n'est pas parce qu'il y a eu des études préliminaires que
c'est
exactement le même.
Merci beaucoup.
Le sous-sol varie à tout moment.
À tout moment.
Donc on ne peut pas imaginer que.
Avec le piment, avec le temps,
il y a 40-50 ans, c'est exactement le même élément. Ce n'est pas comme ça que les sociétés travaillent. Là, elles veulent s'engager, elles veulent révérifier les choses et se rassurer qu'ils sont sur le bon chemin. Exactement.
Voilà, monsieur le ministre, nous vous gardons en ligne. Je sens que vous écoutez également deux auditeurs et puis on reviendra par rapport à la, par rapport au point de vue de la société civile du Nord-Kivu. Freddy, vous êtes à Kamina, bonjour Freddy.
Bonjour.
Vous avez la parole, Freddy.
Bonjour, une fois, et bonjour à nos deux amis.
Quel est votre point de vue, Freddy?
Oui, le problème que vous posez, c'est un problème intéressant. Je pense que. L'exploitation du pétrole dans les parcs nationaux mérite une étude minutieuse. Mais il faut savoir, est-ce que le gisement est connu? Que représente-t-il en termes de dividendes? Quelle est la valeur du parc? C'est-à-dire, que nous rapporte le parc? Que rapporte le parc au pays? On ne peut pas dire que le pétrole va représenter forcément pour les populations des grosses dividendes. On connaît des conflits qui naissent dans ce domaine. Prenez le cas du Nigeria. Ce qui se passe, je pense, en conclusion, qu'il ne faut pas se tirailler. Il faut que la société civile se mette autour d'une table avec le gouvernement, avec les différentes notabilités ou les forces vives, pour voir si ce qui peut être fait est vraiment profitable, non seulement aux populations, mais aussi à toute la République. En fait, nous n'avons pas un seul parc dans notre pays. Il y en a beaucoup. Si on estime que ce sont de... En fait, c'est une exploitation qui va donner des milliards au pays. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? Moi, je pense qu'ici, il faut s'entendre, évaluer exactement, voir quelle est la valeur du parc, quelle est la valeur du pétrole qu'on voudrait exploiter. C'est ça mon point de vue.
Merci beaucoup, Freddy, d'avoir appelé des Kamina. Bena, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole.
Avant de donner ma propre idée, permettez que je revienne sur le propos du ministre qui vient d'intervenir. Avant mon dernier intervenant.
Allez-y.
Il n'est pas. Il sait que l'exploration plutôt a été faite par les Belges. Ça, je ne crois pas pour moi qu'un ministre peut recevoir l'information d'un journaliste sur l'exploration de l'éventuel pétrole dans le parc de son pays. Cette désinformation-là, c'est impossible. Il le savait. Mais, sauf que, au lieu d'argumenter directement, par rapport à l'exploitation, il a dû un peu vouloir nous distraire. Bon. Maintenant, pour l'exploitation, pour moi, je trouve que c'est tôt. Et puis, il faut voir. Il y a
Non, je crois que nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas ouï entendre. Nous sommes à l'exploitation, où il s'agit là d'une distraction. Nous devons dire les choses telles qu'elles sont. Le ministre a clairement dit qu'il n'est pas, on ne refuse à personne de vouloir connaître, disons, les valeurs que gorge le parc des Virunga avant toute éventuelle exploitation. Nous ne sommes pas encore à l'exploitation. C'est l'étape de l'exploration, c'est-à-dire pour se rendre compte, faire l'état des lieux de ce parc. Donc, on est encore à ce niveau-là. Donc, au niveau des études.
Oui, même à ce niveau, il se pose un problème parce que il peut y avoir prise de confiance. Vous avez parlé des Belges, il a dit qu'il faut le revoir parce qu'il peut y avoir des éléments qui manquent. Combien de nos compatriotes congolais qui savent explorer? Là, c'est encore un problème. Le problème qui est là, c'est que la question, elle est tellement importante et qu'à ce niveau, il faut toujours garder une mesure de prudence. Mais moi, je reviens toujours sur la situation. Et nous n'avons pas seulement le pétrole. Le pétrole vient de s'ajouter, il n'y a pas longtemps qu'on a découvert ça. Mais les mines, nous en avons autant. Donc il y a un archi, il y a des exploitations par les Chinois à l'Est, le gouverneur Jean Bamanissa venait de démanteler un réseau de plus de 10 sociétés avec les Ougandais qui exploitaient l'or. Donc dès qu'on n'aura pas assaini toute exploitation dans tout le secteur de notre richesse, on ne peut pas précipiter l'exploitation du pétrole. Et vous savez que le pétrole, dans tous les pays où il y a le pétrole, en tout cas, ça, il ne faut pas se voiler le jeu. Les Occidentaux aiment toujours interférer. Vous avez les Nigeria, toutes ces histoires que vous voyez de Boko Haram, vous avez eu l'histoire de Kadhafi.
Tout ça, c'est la guerre autour du pétrole.
Qui confiait, convoité.
Tout à fait. Donc, il faut prendre beaucoup de prudence.
C'est un facteur de plus de déstabilisation du pays.
Mm-hmm.
Il faut toujours faire de bonnes réflexions avant d'en prédire. Et moi, je partage le point de vue de faire un peu ces domaines en attendant que nous ayons nos compatriotes qui sont, je ne sais pas si le gouvernement a formé des pétroliers depuis tous ces temps, qui peuvent aussi s'impliquer dans l'exploration pour arriver à avoir une idée sur le choix.
Oui, peut-être dans les jours à venir, nous aurons le point de vue aussi des experts au niveau de l'Université du Congo, où il y a des facultés de gaz et pétrole. Pourquoi pas les associer un jour au débat pour qu'ils nous donnent aussi la position. Ben, dommage que ces derniers temps, on ne sait pas même, les scientifiques n'aiment pas trop s'engager dans les certains débats qu'ils estiment pourtant très sensibles sur le plan politique. Merci beaucoup, Bena, d'avoir appelé 081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous entamons le dernier quart d'heure de cette émission. On vous accorde à vous d'abord la société civile la parole et puis nous reviendrons à monsieur le ministre provincial. Voilà, des hydrocarbures mines de la province orientale. On commence avec vous, expert. Vous m'avez suivi.
Non, je suis tout à fait d'accord avec certaines opinions, mais néanmoins, Gérard, c'est le pétrole, c'est l'économie de la facilité. C'est-à-dire qu'on nous a mal habitués dans ce pays. L'économie de la facilité archaïque, c'est juste la cueillette et de la chasse. C'est-à-dire extraction. Où est-ce que nous en sommes? Révolution. Le vrai problème, c'est quoi? C'est la mauvaise gouvernance. La plus grande ressource, c'est l'homme. C'est la mine d'or. Si on s'était mis à former les Congolais, à lui donner les moyens, à la stratégie internationale, à l'économie internationale, nous ne nous en serons pas là.
Mais pourquoi vous n'arrivez pas à harmoniser votre plaidoyer, votre point de vue avec les gouvernements provinciaux du Nord Kivu?
Bon, vous savez,
vous consultez quand même la force vive de la province.
C'est une très bonne question. Où est-ce que nous en sommes avec la répartition des compétences? Jusqu'à maintenant, le gouvernement dit non, je n'ai pas de compétences dans ce domaine, je n'ai pas de compétences dans ce domaine, il faut aller à Kinshasa. Donc, moi, nous pensons aussi qu'il faut qu'il y ait des.
C'est la raison pour laquelle vous êtes venu à Kinshasa.
Pour qu'il y ait de la réforme structurelle et institutionnelle pour que finalement la province ait une part de
Jean-Claude, je vais passer. Maintenant, qu'est-ce que vous ajoutez?
Oui, je dois d'abord saluer sur
le. Dans la discussion d'aujourd'hui, vous pouvez peut-être terminer cette affaire s'il y avait déjà transfert des compétences. Si vous êtes venu à Kinshasa, pas s'il y a ces vides-là. Il y a ces chemins de gommage ici.
Mais oui, même son Excellence, c'est aussi le chanteur, il va reconnaître qu'il y a certaines matières auxquelles même lui n'a pas de compétence. Et donc, cette question, elle est vraiment pertinente. Et comme moi, je l'ai dit tantôt, nous, comme population, notre vie en dépend. Et donc, pour chaque décision qui doit être prise, même au niveau national, au niveau provincial, d'abord, on doit tenir compte de la vie de la population. C'est ce qui est très important. Mais quand le ministre parle de l'exploration, on veut explorer pourquoi? Donc, la
Belgique. L'état des lieux est déjà connu.
Non, oui, l'état des lieux est déjà connu. Et donc, la finalité, c'est quoi?
C'est l'exploitation.
C'est l'exploitation.
On n'en a pas forcément.
Non, on ne
va pas. On peut explorer juste de faire des lieux.
Vous voyez un multinational venir ici,
perdre son sort de temps.
Des milliers. Non, j'ai même les contrats, l'accord qu'ils ont signé avec
Soué. On va faire un autre débat sur le contrat avec le concours.
Voilà, d'ailleurs, il nous a dit, en tout cas, hors micro, qu'il n'exploite plus. Ils ont plié bagages. Alors, Wolf, rapidement, avant que nous accordions la parole.
Je tiens à saluer aussi son excellence, monsieur le ministre Rouyen, je connais les degrés de son travail. Nous saluons même le gouvernement provincial du Nord-Kivu avec son gouverneur qui est en train de moderniser ou de rendre la ville de Goma plus touristique qu'avant. Mais je crois que le ministre est conscient des conséquences du pétrole. Moi, je ne veux pas entrer dans les termes. Je vois, je pense qu'il y a des jeux de mots, exploration, exploitation. C'est comme a dit notre monsieur Bénin, que c'est une pure distraction. Il est membre du gouvernement et nous savons les langages des membres du gouvernement. Et c'est que mon collègue Ernest vient de dire, tout ce que nous sommes en train de subir ici, c'est la mauvaise gouvernance. Je crois qu'il y a des choses là où le gouvernement doit porter plus attention qu'aller porter attention dans des choses qui vont pérenniser, qui vont sacrifier des générations futures.
Voilà, monsieur le ministre, Rouyangé, réaction par rapport à ces deux derniers auditeurs et puis la réaction, en fait, le plaidoyer de la société civile du Nord-Kivu.
Ben, écoute, je ne sais pas si parler de la différence qu'il y a entre l'exploration et l'exploitation, c'est une distraction. De notions scientifiques très très connues. Il n'y a donc pas de distraction sauf si on ne veut pas écouter et entendre la vérité. J'ai insisté sur le fait que l'État congolais, en tout cas les dirigeants congolais, ont le droit de savoir ce qu'il y a sur leur sol et leur sous-sol afin d'évaluer ce que cela représente et qui peuvent se capitaliser pour justement l'essor social et économique de tous les pays. Et donc il n'y a pas de mal à pouvoir connaître ce qu'il y a dans le sous-sol, que ce soit dans les îles protégées ou ailleurs, n'est-ce pas? Mais après, maintenant, le débat de l'exploitation, c'est là où on voit que cette opération d'exploitation a comme conséquence sur l'environnement, sur les écosystèmes, n'est-ce pas? Si on trouve justement que cette exploitation va créer des problèmes sur l'environnement, il n'y a pas une seule autorité politique responsable qui acceptera qu'on puisse détruire le parc de Virunga. Cela n'est pas possible. Mais si on peut trouver une méthode, qui soit à mesure d'allier l'exploration, l'exploitation avec la conservation de la nature, sans que la nature en subisse les conséquences, eh bien, on peut pouvoir le faire. Mais si cela n'est pas possible, si les conditions sont telles que l'exploitation va absolument avoir des conséquences négatives sur l'environnement, moi je suis effectivement du point de vue de ceux qui pensent qu'on ne peut pas nous permettre de pouvoir détruire cet environnement-là, ce parc de Virunga. Je crois que cela est assez clair. Alors dire les choses comme cela, ce n'est pas d'Israël. C'est plutôt appeler les gens à être réalistes, à être rationnels, à analyser toutes choses avec tête froide.
Merci beaucoup. Alors on va prendre Alex qui est à Boubassi et Franck Amboujimaï. Alex, bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à notre invité de la radio Fatih, merci Pierre. J'ai quand même aussi un peu plaisir à vous mettre sur ce sujet, en ce qui concerne l'exploitation du gaz et du pétrole au niveau de la Brésilienne. Moi, pour moi, en tout cas, je constate que c'est une mauvaise chose et que ça, c'est une site touristique. Ça, quand même aussi, ça rapporte aussi au pays. Alors, je voulais seulement poser une question à notre invité, puisque nous savons qu'il y a aussi des industries qui nous ont déjà tombé à faillite. Par exemple, ici chez nous, au Katanga, nous avons l'équipement des manganèses qui demande aussi à être exploité, puisque les manganèses existent jusqu'à l'eau. Vous avez aussi l'ex-Zaïre-Pin. Aussi, pourquoi ne pas en tout cas songer à y mettre toutes ces sociétés-là en marche. En plus, nous avons ici chez nous. Le climat de Djibouti qui n'est toujours pas exploité, puisque nous défendons toujours de la Zambie, vous connaissez vous-même. En fait, nous aimerions en tout cas savoir de notre entité qui nous dise, c'est clair, nous, en Boujimaï, on nous a quand même parlé aussi qu'il y a une pierre de ciment qui demeure jusqu'à présent. Il est exploité, mais vous donnez toujours la peine d'aller dans les parcs de Virunga pour quand même détruire ces parcs.
Merci beaucoup, Alex. Merci. Alors, on va prendre Franck qui est à Boujimaï. Bonjour, Franck.
Bon.
Voilà, si vous pouvez nous aider, Franck, à éteindre votre poste récepteur, ça pourrait nous aider à avoir une bonne communication avec vous. Franck, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, Gérard, à partir de Conjumage.
Voilà, allez-y.
Je voulais intervenir dans ce sens. Je ne sais pas, nous avons besoin d'un environnement aussi qui est sain quand même. Et il y a plein de choses que l'État congolais doit faire. Je peux parler le cas de Lac Albert où il y a du pétrole. Je ne sais pas, hier, si pas aujourd'hui, vous avez parlé même des coltans au niveau de Nyunzu, tout ça. Et pourquoi l'État ne peut pas s'atteler à tous ces endroits où il n'y a rien à protéger comme environnement et qu'ils veulent seulement les parcs de Virunga? Tout ça, ça ne sert à rien. Nous voulons d'abord qu'on nous fasse l'état des lieux de tous ces contrats et tous ces miniers qui sont en train d'exploiter notre pays au détriment même de la population locale qui ne gagne rien. C'est pas intéressant réellement. Il faudrait que les ONG qui sont censées protéger l'environnement puissent crier tout haut et faire pression et qu'on puisse un peu arrêter ça et faire ce qui est censé. Parce qu'il y a les lacs Albert et autres, et qu'on s'y intéresse d'abord à ça.
Merci beaucoup, merci Franck d'avoir appelé les Mujimaï et nous avons reçu beaucoup de messages qui nous sont parvenus. Alors on ne saura pas tout lire, nous prenons juste deux. Il y a Angojo, Socrate, John Odial de Boutembo, Zaché Chabiha Bois de Boutembo également. Zaché dit ceci: premièrement, l'exploitation du pétrole dans le parc de Virunga serait la bienvenue si cette dernière profiterait à la population congolaise. John Odial dit: je suis d'avis avec la société civile car cette exploitation ne sera pas au bénéfice de la population, même si les autorités disait que ça va créer d'emploi, la population en question ne va même pas bénéficier d'un quelconque contrat. Exemple de parc agroalimentaire de Bukangalonzo. Roger Socrate, on ne sait plus quoi dire de ce gouvernement. On se demande pourquoi ce gouvernement se précipite pour faire ce qui n'est pas non seulement très important pour le moment, mais aussi bénéfique pour la population. Voilà. On va conclure avec vous, Jean-Claude Babazé. Vous êtes le président de la société civile de Virunga Yetou et président de la société civile de Routuro. Voilà, donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Donc, en conclusion, nous encourageons d'abord les efforts qui sont consentis sur place par les responsables du CCN, notamment la directrice provinciale et les autres qui ont compris que réellement nous devons protéger ce parc pour non seulement notre vie maintenant, mais la vie aussi de nos enfants dans le futur. Mais je voudrais encore une fois aussi conclure en disant au gouvernement que franchement, il est temps qu'on prenne des décisions qui ne vont pas aller à l'encontre de la vie de la population.
En une phrase, Wolf, vous êtes le secrétaire exécutif des Virunga Yetou. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous?
Oui, moi je tiens, comme le président vient de le souligner,
en une phrase,
à encourager, et je demande au gouvernement d'appuyer les projets qui sont déjà en cours dans les parcs, donc appuyer les autorités qui sont sur place, qui sont en train de faire un travail dans des zones très très, très instables, qu'on donne aussi les moyens au ministre du Tourisme pour la relance du tourisme industriel. Donc je ne vois pas que la place est pour le moment pour l'exploitation du pétrole.
Voilà, on va terminer avec vous. Merci à Sengoma, vous êtes expert des Virunga Yetou.
En ce qui me concerne, j'exhorte donc les populations de s'approprier de leur biodiversité. Et en fin de compte, je dis au gouvernement, l'économie verte est l'avenir de l'humanité. Investissons dans ça.
Voilà, monsieur Jean Rouyagé, ministre provincial des hydrocarbures. En une phrase, qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous? Est-ce que ce sera possible un jour d'harmoniser le point de vue entre la société civile et le gouvernement provincial pour avoir un même plaidoyer sur l'exploitation de ces parcs de Virunga?
Oui, mais si nous visons nous tous l'intérêt de notre population, nous devons pouvoir harmoniser. Il faut simplement dire que le gouvernement provincial accompagnera à chaque fois les efforts du gouvernement central, parce que beaucoup de compétences dans le domaine des hydrocarbures sont plutôt du pouvoir central. Et il faut retenir que dans tout le cas, le gouvernement prendra des décisions responsables dans l'intérêt de la population, et c'est ça son rôle.
Voilà, merci beaucoup monsieur Jean Rouyangé, et nous rappelons que vous êtes ministre provincial des hydrocarbures d'avoir accepté notre invitation. Mais la question sur les transferts des compétences, je crois que cette question n'est pas à l'ordre du jour, mais elle a été évoquée. Je crois que si vous pouvez juste placer un mot par rapport à ça.
Par rapport au transfert de compétences, la constitution est assez claire, ça serait juste question de mettre en œuvre
tout ce qui a été écrit dans la Constitution. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est pas comme une baguette magique, mais cela est en train de se faire. Nous n'avons pas beaucoup à nous plaindre, nous savons que la volonté du gouvernement central est effectivement d'arriver à donner aux provinces toutes leurs compétences. Et nous sommes en discussion, en tout cas à l'occasion de la conférence des gouverneurs, ils en parlent régulièrement, les choses sont en train d'avancer, il n'y a pas de raison d'être pessimiste, et il faut laisser le temps au temps.
Merci beaucoup, Yves Pancor, et à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Allô? 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 Mais il ne répond pas?
Nous profitons pour dire merci à Jean-Claude Babandé, président de Virunga Yetu et président de coordination, hein, c'est ça non? Voilà. Virunga Yetu est président de la société civile de Rutshuru. Merci également à Singa Wolf, secrétaire exécutif de Virunga Yetu et Ernest Sengoma, expert de cette ONG. Vous tous, vous avez accepté notre invitation. Nous vous disons merci. Donc, on pourrait voir la suite de cette émission de l'exploitation autour du parc de Virunga. Nous remercions également Héritier Sidiakala qui a assuré la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Belgique et Julie César Bongonda, un programme qui vous a été coordonné et présenté par J.R. Mungembo. Nous prenons rendez-vous avec vous demain, en tout cas pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.